Vous êtes ici dans un lieu qui s'appelle La Générale, je vois des têtes nouvelles. Donc à un moment, c'est un lieu associatif, donc c'est un lieu qui est loué par une association. Donc à un moment ou à un autre, il va vous falloir adhérer à cette association, essayer de trouver la manière de faire. Rassurez-vous, ce n'est pas un traquenard financier, ça se fait à prix entièrement libre. Donnez ce que vous voulez, mais on a besoin que vous soyez des membres de l'association. Des raisons légales en réalité, c'est un... des locaux qui ont un usage réservé à notre association sans contrat. Voilà, par exemple, Michel est une vieille adhérente de l'association. C'est une habituée de nos séminaires du mardi. Et, que dire d'autre donc, toujours à l'adresse des personnes qui ne sont pas des habituées de ces séminaires du mardi. Donc, chaque mardi, les gens amènent des trucs et posent sur la table. Donc, par définition, ce qui est posé sur la table, c'est un truc qui est partageable et partagé, même si aujourd'hui, vous n'avez rien amené. Si vous voulez amener des choses sur la table, il y a un frigo là-bas dans lequel vous pouvez mettre des sous dans une petite caisse et ramener des trucs sur cette table, si jamais vous n'avez pas pensé à faire ça par vous-même avant. Donc, il y a des prix qui sont indiqués à l'intérieur du frigo. Que dire d'autre? Après, donc, pour parler du fond de la soirée d'aujourd'hui, hein, donc, je vais passer la parole à Julien, qui est la puissante invitante ce soir.
Et donc on reçoit ce soir Juliette Nière, qui se cache là.
Je suis pas du tout cachée.
Est-ce que tu as dit
Oui, c'est bon.
Juliette est graphiste, elle est diplômée de l'ENSAD. Elle a effectué une résidence au CIGN, Centre National du Graphisme, à Chaumont, 6 mois, c'est ça
5, ouais, ça débordait.
5 ouais, mois, passé comme 6. Dans le cadre, elle est lauréate du projet prospective graphique de l'ANGRA, lauréate 2022. Donc c'est dans ce cadre-là qu'elle a effectué sa résidence au CIGN. Pour faire les recherches dont elle va nous parler maintenant et qui débouchent sur la performance qui aura lieu après. Est-ce que tu veux démarrer de bout en blanc, qu'on pose une question pour amorcer le...
Non, mais je peux refaire la présentation que tu as faite si tu veux. bonsoir. Si. Rapidement, j'ai fait cette résidence qui a été qui est en gros co-organisée par le CIGN, donc Centre National du Graphisme, et l'ANDRA, qui est donc l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. en fait, donc, le... c'est bon ? Ok. Il y a déjà eu un premier projet réalisé dans le cadre de cette résidence, qui avait pour thématique signaler les déchets radioactifs, donc. Et là, l'appel auquel j'ai répondu, c'était plutôt transmettre. Donc comment raconter et transmettre l'existence de ces déchets ou les raisons de leur existence aux générations futures. Il se trouve que Chaumont, qui est donc entre, pour ceux qui ne situent pas, c'est entre Reims et Dijon, c'est au milieu. C'est une ville qui est finalement proche de deux sites de l'ANDRA. Un qui est déjà en activité, qui est dans l'Aube, qui stocke les déchets de faible et moyenne activité. Et Bure, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un projet en cours d'étude et en cours de débat. Moi, j'ai un peu... Alors voilà, le problème des déchets radioactifs, c'est que... certains restent radioactifs pour genre 100 000 ans. Une piste explorée, c'est de solliciter des graphistes ou des sémiologues pour réfléchir à des signes pour transmettre leur existence. Moi, quand j'ai vu l'appel à projet qui avait donc qui voulait cette approche un peu didactique, j'ai un peu éliminé le problème des 100 000 ans en disant en fait. Il faut déjà réussir à transmettre à 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, ça serait déjà chouette. Et déjà se poser la question de comment on peut faire ça, parce qu'en fait, en regardant un peu le sujet, l'énergie nucléaire, au-delà du fait que ça fasse débat, il y a, un, il y a plein de confusion parce que c'est très technique en fait comme sujet. Et moi, dans les discussions, il y avait toujours une position super dogmatique des gens qui ont fait des sciences dures et qui sont ingénieurs et qui disent non, mais la radioactivité, c'est un phénomène naturel et l'énergie nucléaire, c'est la solution qu'on a. Et de l'autre côté, des gens très contre parce que de fait, ils trouvent ça dangereux. Et donc, il fallait d'abord un peu démêler, enfin, moi, j'avais besoin de démêler un peu ces positions super clivantes pour voir comment on allait pouvoir raconter pourquoi on avait produit ces déchets, comment on était venu à les produire à des gens qui potentiellement auront oublié ce qu'est l'énergie nucléaire. Voilà, résumé, très court. Et ce que j'ai proposé à Londra et au CIGN, c'est d'écrire un récit. Ça m'est venu en allant voir la tapisserie de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette tapisserie. Philippine vient d'Angers, donc elle la connaît bien. Qui est assez fascinante parce que c'est une très belle tapisserie, mais qui reprend un récit qui a plus de 1000 ans, parce que c'est une tapisserie qui a de 1300 ou 1400. Qui reprend un récit qui a voilà, plus de 1000 ans et en même temps qui continue à le faire vivre puisqu'il fait rentrer dans ses images des signes de son temps contemporain. Et en voyant cette tapisserie, je me disais « Ouais, mais génial, en fait, une histoire qui a 1300 ans, on peut se la réapproprier et se la re-raconter et finalement la faire exister dans un temps qui nous dépasse. » Et ça a été l'axe que j'ai choisi et une des formes qu'on va vous proposer ce soir parce que je suis accompagnée de deux comédiennes, ils sont Elisabetta et Philippine. c'est un théâtre d'ombre dont les silhouettes ont été pensées en acier inoxydable en imaginant que ça puisse devenir des matrices pour laisser des empreintes en fait. Voilà. Et là, ça commence à s'en mêler un peu, donc on peut peut-être ouvrir aux questions, aux réflexions.
C'est une question fondamentale parce que tu as présenté comme une manière évidente le fait qu'on doit signaler ce truc. Mmh. Or, moi, si je crois les scientifiques, les couches d'argile, elles n'ont pas bougé pendant des millions d'années. Donc, je ne vois pas l'intérêt en fait, de faire ça.
Eh ben. non, mais c'est une position que certains pays. Quoi. Enfin, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il faut mieux ne rien dire et ne pas laisser de traces de fait, il me semble que pour l'instant, c'est pas la piste choisie en France. Quoi.
Ma question, c'est peut-être qu'il y a des gens qui t'ont passé cette commande. Mm-hmm. S'ils t'ont passé cette commande, c'est qu'eux, ils ne croient pas au fait que leur coût d'argile ne peut pas bouger pendant 100 millions d'années parce qu'il faut prévenir les gens.
Je pense que Florence a envie de répondre à cette question.
Bonjour, donc, je suis Florence Poitvin, je travaille à Londra. En fait, je suis la nouvelle responsable du programme Mémoire, donc, qui a fait appel avant que j'arrive dessus à Juliette, notamment pour contribuer au projet. Et en fait, c'est une très bonne question, la question de est-ce qu'il faut oublier ou pas, c'est une des questions qu'on se pose et qui n'est toujours pas tranchée. Même si effectivement, nous, pour l'instant, à Londra, on est plutôt du côté, on va essayer de préserver la mémoire. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on se dit que c'est un choix éthique, parce que si on force, si on se dit il faut oublier, ça consiste en fait à choisir pour les générations futures qu'elles n'ont pas le droit de savoir ce qu'il y a. Donc, éthiquement, on se dit que ce n'est pas forcément l'idéal. En plus, en fait, ça fait oublier ce qui constitue un patrimoine, une somme de connaissances scientifiques qui est intrinsèque du XXe siècle. Donc, pourquoi les faire plonger dans l'oubli, ce n'est pas forcément pertinent. Et enfin, il y a une troisième raison, on a travaillé un petit peu avec des géologues, des gens qui travaillent sur l'anthropocène, sur les marqueurs humains, et on n'est pas sûr qu'en fait l'oubli puisse se décréter. Dans les civilisations, en fait, on n'a pas d'exemple d'oubli qui a été décrété et qui était couronné de succès. Donc est-ce qu'on peut forcer une société à oublier? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y aura pas de traces dans le paysage, en surface? De toute façon, on n'en est pas sûr. Donc en fait, pour l'instant, notre réflexion, même si elle n'est pas tranchée, c'est de se dire, le pire, ça serait finalement que ça soit un oubli manqué, c'est-à-dire que des générations futures se disent qu'il y a quelque chose, mais ne sachent pas exactement ce que c'est, creusent, et qu'effectivement, si elles creusent, si elles arrivent à 500 mètres sous terre, ça puisse être dangereux pour elles, si elles ne savent pas à quoi s'attendre. Et effectivement, c'est pas en fait en lien avec la stabilité des couches géologiques qui, elles, elles sont là depuis des millions d'années, elles vont pas bouger. Mais c'est s'il y a une intervention humaine, autant qu'elle soit la plus éclairée possible.
Merci
pour la réponse.
Voilà.
Ouais.
Super
éloquente.
Et moi, je voulais bien faire quelque chose parce que j'ai entendu ce que tu as dit. Ce que je sais de Bure, c'est que ça a commencé le fait de creuser dans je ne sais pas combien. Énormément, 5 km ou je sais pas.
500 mètres.
500 mètres. Bon,
c'est déjà. C'est déjà
voilà, 500 mètres, que c'est déjà fait ça. Que c'est pas. Enfin, dans ce que je m'en rappelle, c'est pas encore. On va en discuter, peut-être on décidera ça, peut-être pas. C'est déjà fait, les 500 mètres, il y a plein de choses, il y a même des personnes qui sont mortes dans le fait de creuser. Maintenant, ça a été imposé. C'est pas seulement en étude, quoi, c'est, ça a été imposé.
Alors moi, j'y suis allée sur le site de Bure, je suis descendue 500 mètres sous terre. À ce stade, il n'y a pas de déchets radioactifs à Bure.
D'accord, il n'y a pas encore les déchets, d'accord.
C'est un laboratoire où en fait, ils ont creusé une galerie à échelle d'ailleurs 95%, tu me dis si je me trompe dans les chiffres, pour observer comment on peut creuser et comment réagit le sol. Donc, c'est encore au stade d'étude. Et a priori, ça serait effectif qu'à partir de 2050 ou quelque chose comme ça.
Mais 2050, ça sera effectif. Ça y est, c'est décidé, c'est effectif.
Il y a encore.
En fait, on est dans le processus de demande d'autorisation de création. On vient de déposer le dossier. Et en fait, il va y avoir toute une phase d'instruction par l'État, une instruction technique sur le projet, une phase de passage devant le Parlement. Et si c'est lancé, on commencera à creuser. Pas à l'endroit du laboratoire, pas très loin, mais pas à cet endroit-là. Donc en fait, actuellement, ce qui est creusé, ça ne sera pas le futur lieu de stockage. C'est dans la même couche géologique, mais ce n'est pas vraiment l'endroit du stockage lui-même. Et à partir du moment, si on a l'autorisation, où on commencera à creuser, ça s'appelle la phase industrielle pilote, à partir de là, il y aura encore des allers-retours avec le Parlement, notamment, pour voir si on continue le projet, si on l'adapte ou si on l'arrête. Donc en fait, c'est un processus qui, à plusieurs étapes, peut être arrêté ou peut être modifié ou peut être poursuivi en l'état.
D'accord. Tu penses qu'il n'y a pas des choses qui sont déjà décidées ?
Non. Enfin, le concept, en fait, ce qui a été décidé, c'est le futur site. Si on construit, c'est les options techniques choisies, c'est ce qu'on va y mettre, en fait, les typologies de déchets, si on les y met à peu de choses près, on sait quelle typologie de déchets on va mettre. Mais en fait, à chaque fois, il y a quand même un aller-retour avec les pouvoirs publics ou avec le Parlement qui est prévu pour consolider nos choix ou dire si la société elle change d'avis pour une raison X ou Y, qu'on arrête ou qu'on continue.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a des projets dans le monde qui sont plus avancés ou les décisions étaient prises ? Je pense à la Finlande.
Oui, il y a la Finlande, la Suède aussi, même si bon, récemment, pour des questions, ils ont des concepts un petit peu différents. Ils utilisent par exemple beaucoup de quantités de cuivre pour leurs conteneurs. Donc actuellement, comme le cuivre augmente, ça leur pose des petits problèmes. Mais globalement, la Finlande, ils sont plus aboutis que nous. En fait, ils ont eu un processus parlementaire où il n'y a pas vraiment eu d'opposition. Et donc, leurs travaux de forage sont plus aboutis que les nôtres. Et voilà, c'est Finlande-Suède principalement.
Et c'est quoi les outils qui sont utilisés pour modéliser les sous-sols à moins 500 sous terre en fait ? C'est comment est-ce que c'est modélisé ? Parce que vous dites que ça ne va pas être mis dans l'endroit laboratoire où on a déjà creusé, etc. Mais à côté,
ouais.
En fait, c'est quoi la définition des sous-sols, en fait, la finesse en fait, de modélisation de ces sous-sols, est-ce qu'on est sûr de...
Voilà. Mais en fait, c'est une même couche géologique. Alors moi, je ne suis pas du tout géologue, on a plein de géologues experts à l'endroit, mais c'est la même couche géologique qui s'appelle le Calovo-Oxfordien. C'est une couche d'argile qui a plusieurs dizaines de millions d'années. Donc on est vraiment à l'échelle géologique, on est tout près, c'est à quelques kilomètres ou plus, ça vole voisin même pas le lieu du stockage. Donc actuellement, en fait, ils ont fait des dalles galeries, dont certaines à échelle quasiment une. Donc des galeries minières, déjà pour tester simplement les méthodologies de creusement avec des engins de chantier minier. Et après, il y a des géologues qui viennent faire vraiment des carottes pour étudier les propriétés d'imperméabilité de la roche, de fracture, de résistance à la température, etc. Voilà. Et c'est, par contre, c'est, enfin, comme on est en France, c'est déjà un sous-sol qui, globalement, les sources géologiques en France sont quand même assez bien étudiées, assez bien connues. La couche, globalement, était bien connue, et là, maintenant, on fait des études plus fines pour les caractériser par rapport à
Est-ce que ce genre de méthode a déjà été utilisée à l'étranger et quels sont les résultats
Pour le stockage de déchets en particulier, tu veux dire
Pareil qu'à Bure, en fait.
Eh bien, c'est ce qu'on disait, en fait, en Finlande, ils ont déjà leur concept qui est pas mal démarré parce qu'eux, ils ont creusé. Alors, la différence, c'est qu'eux, ils sont dans du granit, en fait, parce que la Scandinavie, c'est essentiellement une couche de granit, qui est une autre roche imperméable, même si c'est pas la même type. Voilà, ils ont étudié les propriétés. Et je crois qu'historiquement, dans les trois sites qui avaient été étudiés en France, il y avait eu aussi un site granitique qui avait été étudié, mais finalement, le site argilitique pour nous était plus approprié.
Il n'y a rien aux États-Unis ou dans d'autres pays que la France
Alors, aux États-Unis, ils se sont penchés sur la question, mais dans les années 80, il y a eu beaucoup de. Notamment sur la question de la mémoire d'ailleurs, sur des projets de construction en surface, mais ça a été un peu mis de côté pour l'instant. Donc, ils sont encore en train de réfléchir au sujet, c'est pas enterré, si on peut dire, mais c'est moins abouti qu'en ce moment.
Du coup, déjà, merci pour la présentation. C'est un sujet que je trouve passionnant. Moi, j'ai trois petites réflexions, je ne sais pas trop m'éparpiller. La première, c'est sur la mémoire. Peut-être que j'ai mal compris quelque chose. Et j'ai le sentiment que dire qu'on n'a pas d'exemple d'oubli réussi, c'est invérifiable, puisque si les oublis ont été réussis, effectivement, on ne peut pas s'en faire. Donc, c'est de la rhétorique à deux balles. Mais du coup, je me posais la question, parce que notamment à l'Empire romain, il y avait la damnatio memoriae, qui était la punition la plus extrême, qui était de rayer des noms de l'histoire, des noms d'empereurs romains, etc. Et il me semble que dans l'archéologie, ça a plutôt bien fonctionné, que ça complique beaucoup d'ailleurs, malheureusement, le travail des archéologues. La deuxième petite question, c'est que ça m'a beaucoup fait penser au documentaire Roncalo. J'imagine que c'est une source d'inspiration, qui ont posé les mêmes questions de on enterre des déchets nucléaires et comment on prévient dans le futur. Et ils avaient pensé utiliser le tableau, le CRI, un truc un peu universel. Du coup, je me demandais si dans d'autres domaines que les déchets nucléaires, il y avait eu cette question de prévenir les humains dans le futur ou même d'autres espèces animales. Et enfin, la troisième petite réflexion, c'est que penser à comment prévenir dans le futur, ça pousse la question de quel sera a priori le futur, donc faire des prospectives de futurologie, etc. Et je me demandais comment on se positionne par rapport à la grande tendance collapsologue. Est-ce qu'on pense à une société post-effondrement, comment on la conçoit, etc. Voilà, c'est un peu les questions en vrac.
C'est un bon résumé des questions qu'on se pose dans le cadre de notre programme, en fait. C'est très bien. Pour la première question, oui, c'est vrai, c'est très juste que bon, peut-être qu'il y a eu des oublis organisés qui sont tellement bien réussis qu'on n'en a aucune trace. Mais ce qu'on voulait dire, c'est qu'on, par contre, on a des traces de sociétés ou de dictatures, par exemple, qui ont voulu organiser l'oubli et ça n'a pas marché. La preuve, c'est qu'on s'en souvient, en fait. On peut penser à la Roumanie, des choses comme ça, des sociétés qui ont voulu détruire les archives, ou même l'exemple romain qui était cité, si on en a connaissance, c'est que finalement, il n'a pas totalement marché. Et par ailleurs, il y avait la question, donc pour nous, là, c'est des études de géologues, donc dans l'Anthropocène, une science qui est peut-être plus aboutie qu'elle ne l'était il y a quelques siècles, qui dit que nous, on a des infrastructures de surface qui seront nécessaires pour construire le stockage. Il en restera forcément des traces, en tout cas à des échelles moyen terme. Donc voilà. Et après, il y a le hasard. Des fois, le hasard fait qu'on ne sait jamais. Peut-être que des gens creuseront là parce qu'on ne veut pas savoir pourquoi. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était sur les hypothèses sur le futur, c'est ça ?
C'est plus bon pour le projet Oncalo.
Oui, Oncalo, pardon. Ouais. Oui, le film documentaire Into Eternity, c'est peut-être à ça que... Oui, effectivement, eux, ils étaient... Pendant longtemps, les Finlandais étaient plutôt sur la question de l'oubli. Ils sont peut-être en train un peu de revoir leur position. Mais ils se sont posés les mêmes questions. Et pour ce qui est de la signalétique, telle que le CRI, c'est des questions qu'on se pose. En fait, on travaille avec des sémiologues pour la création d'une pasigraphie ou de symboles qui soient universels pour les avertissements. Et donc, en fait, ça, c'est une des composantes de notre programme. C'est est-ce qu'on met quelque chose qui avertit ? Est-ce qu'on met quelque chose qui informe ? Est-ce qu'on combine les deux ? Et c'est toute la question qui se pose, parce que si on met un avertissement, ça dit qu'il y a un danger, mais ça ne dit pas forcément lequel. Et la curiosité humaine étant ce qu'elle est, peut-être que les gens, finalement, ils vont quand même encore plus creuser. Mais voilà, oui, ça fait partie des pistes.
Mais ce que je me demande, c'est pourquoi mettre les avertissements forcément au même endroit aussi ?
Eh bien, ouais, c'est aussi une question qui se pose. On peut penser à mettre un signal en surface, pile à l'aplomb du site. On peut penser à en mettre à faible ou moyenne profondeur, mais encore à l'aplomb du site. Et en fait, on pense aussi à le répartir à différents endroits en France, voire à l'international. On a des partenaires à l'étranger. Par exemple, il y a le Memorial of Mankind en Autriche, à Hallstatt, dans les anciennes mines de Selt, qui actuellement en fait, sont utilisées par une compagnie, un céramiste en fait, qui crée des petites plaques de céramique sur lesquelles tout un chacun, n'importe quel humain, peut envoyer sa vie, ses photos, etc. et les stocke là. Et donc nous, on a la plaque en fait parlant de CIGEO à cet endroit-là. Donc il y a la question effectivement de jouer sur plusieurs échelles de temps, plusieurs échelles géographiques, plusieurs échelles de public et plusieurs types d'avertissements. Ouais.
Sur la question de l'oubli et sur le fait de est-ce que tout est oublié, ou est-ce qu'on peut forcer l'oubli, on est quand même dans une histoire qui est très occidentale hein, et qui est très impérialiste et colonisatrice. Et donc, par exemple, c'est l'idée, quand Sarkozy a fait son discours à Dakar, il n'y avait pas d'histoire avant l'arrivée des Blancs. Hein. Donc c'est un peu très compliqué de pouvoir dire que... C'est-à-dire qu'on se fie à des sites archéologiques qui ont commencé au 19e siècle, c'est difficile d'établir la question de qu'est-ce qui est la mémoire et qu'est-ce qui reste. Donc je dirais qu'on a oublié énormément de choses. Quoi. Oui. Au final, on se souvient de pas grand-chose et on interprète beaucoup. En fait.
Mais d'où la piste de la mythologie.
Ouais.
Où en fait, après avoir imaginé plein de solutions, c'était celle-là qui me paraissait un peu convaincante, notamment après avoir lu un livre incroyable qui s'appelle « Avant nous, le déluge ».« Après nous, le déluge ». De...
Bon.
Vous voyez l'idée où c'est Jean-Loïc Le Guérec qui a notamment retracé le voyage des récits de déluge et en fait qui remonte à 40 000 ans quoi. Et donc le récit de l'Arche de Noé, en fait potentiellement ça vient de civilisations beaucoup plus anciennes et ça a aussi fait le tour du monde en fait puisqu'il a retracé toute une cartographie de ça et de fait, moi la question de l'oralité m'a un peu attrapée parce que je pense qu'on peut transmettre des choses par l'oral qu'on peut pas faire par l'écrit. Et que potentiellement, après, effectivement, dans notre ère
ouais.
C'est compliqué de se dire que ça va rester et qu'on va vraiment se raconter des histoires, mais j'ai l'impression que c'est une piste à explorer.
On est sur une échelle de temps tellement ridicule par rapport à 60 millions d'années.
Ouais.
Ou
ouais.
C'est assez hallucinant de se dire que finalement, on parle de l'échelle humaine. Mais si on se pose la question sur l'échelle animale ou géologique, on est complètement dans des... On ne sait pas, quoi. On sait peu de choses sur l'histoire non humaine aussi.
Moi, ce que je me demande, c'est pour l'histoire qu'on ne veut pas voir ou que le système politique ne veut pas nous faire voir, ça demande aussi une maintenance active d'un récit alternatif, de faire des films qui... des tableaux, si ça s'arrête, je pense qu'on va voir l'histoire de façon différente. Enfin, pour les déchets nucléaires, il n'y a pas forcément cette maintenance de l'oubli qui sera faite.
Moi, j'ai une question. Une question qui s'adresse à toutes les deux. Est-ce que ton travail, vous le voyez comme une solution concrète, comme de la recherche dans l'absolu qui peut être réinvestie d'une autre manière par rapport à une évaluation du futur. Comment vous vous positionnez par rapport au travail que vous avez fait?
Je recommence.
De fait, ça.
Oui.
Ça s'appelait prospective. Et du coup, il y a l'idée de jouer le jeu, de se poser vraiment fondamentalement la question de qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet. Et en même temps, un peu de l'éviter parce que c'est vertigineux et que j'ai pas aussi en tant que graphiste la prétention de dire que mon œuvre va durer à travers les siècles. Tu vois. Il y a un peu ce... voilà.
Et nous, dans le cadre du programme Mémoire, c'est à la fois prospectif, dans le sens où on ne se dit pas, dans un an, paf, on va avoir construit l'objet mémoriel ultime, il faut que ça soit fait à ce moment-là, définitif et immuable. Et donc en fait, on laisse ouvert le champ des possibles parce que c'est un projet assez long terme, ne serait-ce que pour la construction, elle va durer un siècle, hein, la construction-exploitation. Donc on a quand même encore un peu le temps de savoir ce qu'on va faire. Mais en même temps, en fait, le simple fait de lancer des programmes de recherche, de créer des œuvres, de créer des livres, etc., ça constitue déjà des outils mémoriels. Le fait d'en parler, on revient un peu là dans le domaine de la mémoire comme passage de relais. En fait, le fait de se poser la question sur la mémoire, ça crée déjà de la mémoire parce que la société prend conscience de la question et peut la transmettre elle-même aux générations futures. Donc en fait, c'est un peu les deux en parallèle et je trouve que les deux sont naturellement imbriqués finalement.
Juste une idée qui me vient, parce qu'on parle beaucoup de quelque chose d'immuable comme un mémorial justement, et est-ce que vous avez exploré la piste de quelque chose de collaboratif ou peut-être avec une échelle de tous les 15 ans, une sorte de mise à jour du mémorial ou quelque chose comme ça? Le passage de relais, je voyais vraiment cette course et du coup le relais il passe de personne à personne.
Ouais, c'est une bonne idée, ça fait partie des pistes un peu explorées. Le fait de créer par exemple un rituel, parce que bah, comme ça les gens à date fixe, voilà, ils se remémorent ce qui s'est passé. Le fait aussi de se dire que si on crée un monument immuable qui est censé durer des millénaires, on confie à ce monument la tâche de se souvenir. Et du coup, il y a peut-être le risque que nous-mêmes, finalement, on oublie et que le monument, bah, il soit là, mais on ne sache plus ce qu'il veut dire. Tandis que s'il y a des monuments ou des œuvres qui sont plus fragiles, moins pérennes, on est obligé de les reconstruire et donc par là même, on se souvient de ce qu'elles portent. Donc, c'est, ouais, ça fait partie des pistes envisagées aussi.
Une question peut-être un peu technique. Je suis un peu surpris, parce que j'ai entendu récemment un discours qui m'avait surpris. Sur ce sujet de l'enfouissement de ces déchets, on les met au fond d'un trou, on les enfouit pas complètement puisque finalement on saurait les réutiliser partiellement et on aurait même modélisé la possibilité de les réutiliser au fur et à mesure jusqu'à les épuiser complètement et on saurait même modéliser l'avenir de la capacité de les réutiliser jusqu'à ce qu'ils deviennent neutres. Est-ce que ça, c'est vraiment la foutaise ou une autre mythologie parallèle?
Non. Enfin, après, ça recouvre peut-être. En fait, dans les pistes qui ont été explorées au niveau national, quand on s'est posé la question de bah, ces déchets nucléaires, ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait? L'État avait demandé aussi au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, d'étudier la piste de la transmutation. En fait, qui permet, en bombardant les atomes de particules, de les rendre moins radioactifs. Bon, c'est une piste qui, pour l'instant, scientifiquement, n'est pas aboutie, elle donne rien. C'est pour ça qu'on a choisi plutôt d'enfouir les déchets pour les protéger via la couche géologique. Par contre, il est vrai que dans notre programme en fait, d'enfouissement, on a la notion de réversibilité qui nous est imposée. C'est-à-dire qu'à minima, pendant toute la phase d'exploitation qui va durer un siècle, on doit avoir la possibilité de récupérer ces déchets au cas où, dans 50 ans, les gens aient trouvé une meilleure solution ou, pour une raison X ou Y, préfèrent les conserver en surface ou puissent les exploiter, enfin voilà. Donc c'est peut-être un peu ça le...
Non, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était pas forcément des déchets, mais peut-être une richesse pour l'avenir, puisque ça contenait encore de l'énergie.
Oui, effectivement, en fait, l'idée, c'est d'où la nécessité de conserver la mémoire pour nous. En fait, ces déchets, ils sont irradiants. Pour l'instant, pour nous, ils sont que irradiants au sens où on peut rien faire de la radioactivité qu'ils contiennent actuellement. Et peut-être que dans un siècle, deux ou plus, les humains auront trouvé une technique qu'on ne connaît absolument pas, qu'on ne peut pas imaginer, et que dans ce cas-là, ils auront envie d'exploiter. Donc il faut qu'ils sachent en fait ce qu'il y a et quelles sont les caractéristiques physiques de ce qu'il y a.
Ça fait deux mythes parallèles, quoi, celui de la richesse, celui du risque.
En fait, ça se complète, c'est-à-dire que le risque, il est réel, et je pense que pour l'être humain tel qu'il est constitué, il sera toujours là, c'est-à-dire que si on s'approche d'un colis radioactif, on est irradié, donc c'est nocif pour la santé, ça c'est sûr. Mais après, peut-être qu'on développera des techniques pour exploiter de même que les humains, au départ, quand ils avaient du feu, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était se brûler. Et après, ils ont appris à l'apprivoiser. Enfin, il peut y avoir cette complémentarité, en fait. L'un n'empêche pas l'autre.
Juste un point de clarification pour éviter toute ambiguïté. Moi, ce que j'ai compris, sous le contrôle des spécialistes, c'est qu'il y a des choses qu'on ne considère pas vraiment comme des déchets et qui ne sont pas enfouis. Et qui sont destinés à être éventuellement recyclés dans des surgénérateurs ou des réacteurs à neutrons rapides, et qui constituent aussi une grosse masse de choses qui sont entreposées quelque part, mais qui ne sont pas du tout concernées par ces déchets terminaux très difficiles à recycler.
Ah oui, c'est peut-être ça.
Et là, il y a vraiment ce mythe, excuse-moi, je retire ce mot, il y a cette promesse. D'une énergie gratuite, infinie, pendant 10 000 ans, avec juste les, entre guillemets, déchets qui sont stockés une fois qu'on aura redémarré les programmes de réacteurs.
D'accord.
Juste, moi, je suis, maintenant, je vais vous faire le porte-parole d'une question Internet, comme dirait l'autre, une question qu'on m'a commandée. Donc, j'ai rencontré quelqu'un hier qui ne peut pas venir aujourd'hui. Une question pour l'artiste. Donc, sur la position de l'artiste vis-à-vis d'une institution telle que l'ANDRA, du type de contrat que tu as. Je ne sais pas si c'est un contrat monétaire ou pas. Est-ce que tu es encore sous contrat actuellement? Est-ce que tu es libre de ta parole? Et première question. Et, non, mais désolé, c'est une question.
Non, mais je comprends.
Et deuxièmement, justement, après, quels sont les enjeux éthiques pour une artiste de se lancer dans une aventure pareille, en admettant que le contrat soit tout à fait raisonnable?
Oui, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. je comprends bien, et c'est une question qu'on m'a souvent posée. Moi, quand j'ai vu l'appel à projet, donc il y en avait eu un en premier il y a 2 ans, ça m'a tout de suite interpellée parce que, de fait, à la base, mon travail de graphiste est vraiment sur la vulgarisation de sujets complexes. Et ça a pu être le mandat français en Syrie. Et là, de fait, c'est les déchets radioactifs. Moi, je trouve que c'est un peu une posture de graphiste, c'est une posture un peu d'artiste avec son MacBook et son compte Instagram de dire les déchets radioactifs, c'est dégueulasse, faut surtout pas en parler, faut surtout pas travailler avec l'ANDRA. Alors que moi, je me sens super. J'ai une toute petite responsabilité à l'échelle d'un pays, mais. J'ai une responsabilité et de fait, j'ai peut-être des moyens et des outils pour raconter ce qu'il en est à d'autres. Et du coup, voilà. C'est ma réponse et du coup, je ne me suis pas trop posé la question, à part en termes d'image. Mais c'est un truc qu'il faut déconstruire absolument, surtout quand on parle d'énergie et de déchets, quoi. Je pense. Voilà.
Il n'y a pas de clause qui t'empêche de parler?
Non, j'ai rien signé à part.
J'étais pas là où on m'appelle à projet. Et
en plus, d'ailleurs, c'est pas un contrat qu'avec l'ANDRA, c'est un contrat avec le CIN. Donc, en fait, c'est un contrat de. Juste pour être payé, pour être rémunéré de son travail, ce qui est plutôt bien.
Mais je pense que dans l'idée de la personne qui a posé cette question hier, à la thèse d'Aniara, il y avait l'idée qu'il y a une dissymétrie entre l'artiste qui est seul ou finance face à une grosse institution et que le rapport de force n'est pas équitable et que dans quelle mesure malgré tous les contrats normaux qui ne sont pas en train de te lier les mains, malgré cela, est-ce qu'il n'y a pas quand même une contrainte surplombante liée à cette dissymétrie? Et comment gérer ça, disons,
à soir au système politique tout entier, si tu dis des choses qui ne sont pas entendables, par exemple. Si tu dis que l'énergie c'est mal, que ça apporte la dictature, le pouvoir sur les autres, des choses comme ça, ça ne peut pas passer.
Ouais, on va voir justement, je ne sais pas quelle est ton opinion.
Je vois mieux la question. Je vais revenir à la tapisserie de l'apocalypse. Parce qu'il y a un peu à voir, c'est une question qui se pose et c'est ce que tu disais sur les récits alternatifs ou dissidents. Rien de nouveau dans le fait que l'État subventionne beaucoup d'artistes et plein de graphistes pour faire vivre la culture. Et a priori, tant qu'on est dans une démocratie où on peut raconter l'histoire du nucléaire, parce que c'est ce que je vais faire juste après, on ne m'a pas demandé de supprimer le fait que je mentionnais Hiroshima et Nagasaki ou Tchernobyl et Fukushima dans mon récit, quoi. Et je pense que, très personnellement, la question s'est posée bien avant que je fasse cette résidence avec l'ANDRA, en fait. J'étais dans une école nationale supérieure, alors qu'il y avait plein de dysfonctionnements de l'État et du gouvernement avec lequel je n'étais pas d'accord. Et j'ai quand même accepté des subventions publiques. Donc, voilà.
Est-ce qu'on a accès à des informations en fait, peut-être plus sensibles ou privilégiées auxquelles vous n'avez pas le droit de faire référence, par exemple, en fait, c'est aussi ça, quoi. Est-ce qu'on donne certains types d'informations
pour tout vous avouer, la résidence, j'ai été très libre. C'est plutôt moi qui allais solliciter différentes institutions, que ce soit l'ANDRA pour aller visiter les sites, mais je suis allée aussi dans les archives d'écurie, les archives du CEA. Alors effectivement, les archives classées secret militaire, enfin secret défense, bah, j'y ai pas accès, mais comme n'importe qui essaye de visiter le CEA. Mais on m'a pas retoqué sur du contenu. Après, de fait, je suis pas arrivée en disant... Enfin, moi, ma position sur le nucléaire, c'est que genre, je suis née en 94 et que bah, je me suis même pas posé la question de pour ou contre, en fait. J'ai l'impression que c'est comme le pétrole. Enfin, c'est un truc où je peux pas trop avoir de position super arrêtée. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de présenter. Enfin, ce qui raconte l'histoire qu'on va vous montrer tout à l'heure est assez neutre et assez didactique sur les faits, quoi. Et il n'y a jamais trop de positions. Donc, de fait, il n'y a pas eu de problème, mais je sais pas s'il y en aurait eu d'ailleurs.
Non, nous, je sais plus exactement la définition de la résidence, hein, mais en fait, c'était créer une façon de transmettre la mémoire des déchets radioactifs au centre de stockage. On ne demandait pas après à la personne qu'elle soit pour ou contre. Et juste pour la question de l'accès aux données, en fait, à l'ANDRA, on a une politique justement de donner le maximum d'informations à la société. Et par exemple, on a ce qu'on appelle l'inventaire national, qui est le fait de répertorier tous les déchets nucléaires existants en France, pas uniquement dans nos centres. Et ça, c'est accessible sur le site internet et tout le monde vraiment peut aller le consulter. Enfin, au contraire, c'est fait pour être répertorié le plus possible. Donc après, les seules limites qu'on pourra avoir, notamment dans la phase d'exploitation, c'est juste les questions de sécurité, pour que n'importe qui puisse pas entrer dans le site en franchissant la barrière, quoi. Mais à part ça, le concept lui-même, les tunnels et tout, au contraire, c'est dans tous les... tous les débats publics qui ont eu lieu, dans tous les dossiers en fait officiels qu'on a déposés, tout ça c'était consultable publiquement justement.
Ce qui est prévu, c'était une performance. Il y aura de toute façon des nouveaux temps de parole plus informels après.
Non, c'était juste si tu faisais le temps qui était juste sinon posé.
Voilà, c'est ça. Donc ensuite, peut-être laisser un peu de temps aux artistes pour se préparer.
Ouais.
Moi, je veux rebondir rapidement, mais alors c'est plutôt pour faire une annonce.
Ah oui.
Parce que justement, on parlait de la classification des dossiers, et donc il se trouve qu'il y a un ensemble de dossiers qui ont été classifiés et qui viennent d'être déclassifiés sur les essais en Polynésie, les essais nucléaires par l'armée française en Polynésie, et qu'il y a un livre qui est paru l'année dernière qui s'appelle Toxique, qui était donc un journaliste de Disclose, qui s'appelle Thomas Status, et un professeur à l'université de Princeton qui s'appelle Sébastien Philippe. Qui viendra donc le premier mardi de décembre, donc dans trois semaines je crois, justement pour présenter des analyses qu'ils ont faites à partir de ces données, qui ont donc été classifiées hein, pour des raisons militaires, et qui permettent justement de donner un œil assez intéressant sur justement cette histoire du nucléaire français. Voilà. Et donc qui sont des choses qui viennent de rentrer dans le débat public hein, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est la première chose.
Le
6 décembre. Et je pense que la dernière session de décembre, on va projeter donc le film de Peter Galison, Contentment, que tu as peut-être déjà vu, et en fait qui est un film qui raconte justement tous les essais avant-projets qui ont été commandés par l'État américain pour justement avertir sur une durée de 10 000 ans exactement. Donc c'est l'appel à projet qui a été commandé, les artistes qui ont répondu. Et ce film documente en fait tous ces avant-projets qui ont été envoyés, proposés. Et donc ça sera pour conclure voilà notre cycle de l'année.
On arrive vers le 20 décembre.
Donc on se pose autour du 20 décembre, voilà. Et on est en train d'inviter aussi Sophie Houdard à venir justement discuter un petit peu comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on négocie, hein, si négociation est un terme qu'on peut employer, dans cet héritage qu'on nous laisse, nucléaire. Voilà, elle viendra donc. Ça sera dans on espère, pour en janvier.
Et qu'est-ce qu'elle fait, Sophie
chercheuse. Elle est chercheuse, et voilà, viendra s'exprimer. Voilà, donc ça, c'est un peu pour suivre le fil, histoire de pouvoir justement donner des paliers, puis se dire que la discussion, bah, aujourd'hui, c'est un peu une amorce, et puis qu'on va continuer un peu dans cette direction, de manière à pouvoir continuer à discuter tout ensemble. Voilà, on sera ravis si vous venez, bien sûr.
Question très rapide, il n'y a pas d'archives militaires à l'endroit. Sur le fort de Beaujolais.
Non, nous en fait on a les archives de notes de l'ANDRA, en fait, de notre institution, donc des déchets qu'on gère, de toutes les études scientifiques qu'on mène.
Denis fait référence à un exposé qui a lieu ici par un historien du fort de Beaujolais, où ont été testés des détonateurs de bombes atomiques en banlieue parisienne. avec toute une problématique aussi de gestion des déchets. C'est bien. Bah, donc, merci beaucoup. On applaudit. C'est important de dire que d'habitude, il y a une discussion informelle, c'est le mardi informel de la générale, mais avant de passer en mode complètement informel, il faut voir votre performance. Après, on
pourra... Ouais, désolé, c'est un peu formel.
Non, non, mais c'est pas grave. Il y aura même peut-être deux sessions. Voilà. Ouais. Donc,
pas mal de monde qui a attendu.
Voilà, alors après, ceux qui doivent venir à 21h sont-ils là?
Ils commencent à être là, on peut s'installer et du coup, il y a. Mais peut-être qu'on pourra, je pourrais vous montrer ou le laisser sur les tables. Après, de la performance, il y a aussi un petit livre qui documente plus scientifiquement, historiquement.
C'est dangereux de laisser un livre sur une table pleine de trucs à manger. Donc, vaut mieux que le garde.
On a dit que c'était en Ok.
Donc du coup, bah, la discussion reprendra une fois qu'on aura vu l'essentiel du travail. Donc merci pour cette première partie.
Merci. Merci à vous.
Merci.